Les pieds sur terre, Sonia Kronlund. Des histoires, des enquêtes, des reportages.
C'est bizarre quand les choses arrivent.
Déjà le 10 décembre dernier, lors d'une conférence de presse, le Premier ministre Jean Castex, attentif à la détresse des étudiants pendant la pandémie, reconnaissait, je cite, « Nous sommes conscients qu'il y a des étudiants dans une situation psychologique très difficile ». Et il ajoutait « Il y a des suicides », sans toutefois donner plus d'explications. Depuis, on a eu hélas des détails comme cette horrible défenestration à Lyon dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 janvier d'un étudiant en droit. Jean Castex annonçait aussi alors une reprise des cours en présentiel si la situation le permettait autour du 20 janvier. Nous voici à la veille de cette échéance et l'horizon ne semble guère se dégager. Les étudiants qui y arrivent sont derrière leur ordinateur quand ils en ont un et une bonne connexion, toujours plus isolés, stressés, déprimés, anxieux, insomniaques ou hypersomniaques, en mal de contact, de rencontres, de soirées qui ne coûtent rien et durent toute la nuit, de chair et d'os, de vie étudiante, en bref. On notera d'ailleurs de manière assez prévisible que certaines des filières les plus élitistes constituent des exceptions en continuant de nombreux cours en présentiel. Les classes préparatoires, certaines grandes écoles, tant mieux pour eux. Pendant ce temps, la précarité des plus démunis grandit à mesure de leur isolement. Elle a sans doute des effets sur leur morale, mais d'abord sur leur assiette. Les plus affectés sont les étudiants étrangers, ceux qui ont perdu leur lien avec leur famille, et les étudiants non boursiers, dont les familles se sont appauvries avec le premier confinement. Leur situation est tellement préoccupante que de nombreuses associations, comme les Restos du Cœur ou le Secours Populaire, s'installent directement sur les campus pour leur venir en aide. Nous sommes aujourd'hui à Chambéry, sur le campus de l'Université Savoie-Mont-Blanc, justement. En temps normal, 4800 étudiants fréquentent les UFR de Lettres, Langues et Sciences Humaines et la Faculté de Droit. C'est une des meilleures universités de France, la première pour son nombre d'étudiants qui participent au programme européen Erasmus, d'où le grand nombre d'étudiants étrangers. Ici, dans un local en sous-sol, les mardis et jeudis, c'est l'association Études et Brouilles, créée par des étudiants bénévoles en partenariat avec la Banque Alimentaire, qui distribue désormais des colis alimentaires, des vêtements et des produits intimes à plusieurs centaines d'inscrits. Valérie Borst a rencontré certains d'entre eux en présentiel. Ils lui parlent de vive voix de ce qu'ils vivent en ce moment. En attendant des jours meilleurs, des étudiants sacrifiés, c'est tout de suite dans les pieds sur terre.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Tu prends un nouveau bénéficiaire ?
Comment ?
Attends, deux secondes, je fais le point avec Tierno. Alors, on est dans un local prêté par le Crous sur le campus de Jacob Bellecombette. Donc voilà, on est dans la résidence du Chanet et c'est ici que se passent les distributions alimentaires. Moi, je m'appelle Nadia Chmaïdi, je suis présidente de l'association Études des Brouilles depuis la rentrée universitaire. On a commencé en octobre dernier. Et voilà, et là on continue pendant les vacances une distribution par semaine.
Et il y a du monde ?
Ouais, bah là on vient à peine de commencer, ils sont déjà plus d'une quinzaine devant la porte. On pensait pas qu'ils viendraient aussitôt, mais voilà, ils vont malheureusement attendre un petit peu longtemps dehors. Mais on a triplé le nombre de bénéficiaires depuis le premier confinement. On a enregistré 130 bénéficiaires depuis le début de l'année. Et voilà, bah ça continue à monter. Un petit peu chaque semaine, on a à peu près 5 inscriptions chaque semaine. Donc, ils devraient se concentrer sur les études, mais malheureusement, leur situation financière ne leur permet pas, en fait. Et nos colis leur permettent justement de pouvoir un peu souffler par rapport à ça et d'arrêter de trop s'inquiéter par rapport à la nourriture qu'ils vont pouvoir manger chaque semaine, quoi.
Ouais, ok.
C'est parti.
Allez, on continue.
Bonjour.
Donc les conserves, c'est conserve légumes, cuisiné, conserve poisson.
Ensuite, les liquides. Alors, t'as le droit à de l'huile. Alors, l'huile, t'en as déjà pris. Sinon, c'est du potage.
Il reste que le potage.
Ouais.
Donc, je prends ça.
Je vais prendre du cassoulet. Vous m'avez dit deux boîtes, c'est ça ? Et je veux bien du thon, s'il vous plaît. Alors j'ai récupéré du cassoulet, du thon, des céréales, du lait, de la farine, du chocolat et des pâtes. Avec un peu ce qui me reste chez moi, je pense à me tenir peut-être 4-5 jours. Je mange pas énormément, donc je pense que ça va aller. J'ai connu, on va dire, l'association l'année dernière. Vu qu'il y a eu le confinement et tout ça, bah, on va dire que j'avais besoin d'aide. Financièrement parlant, c'est compliqué par moment. Bah, y a des choses qui sont forcément en plus, comme les masques. Et bah, on va dire que le mois dernier, c'est beaucoup, beaucoup de dépenses imprévues. On a eu le chauffage très tard. Il faisait froid et l'isolation, c'est pas le top du top ici. Du coup, j'ai dû acheter des rideaux pour vraiment essayer d'isoler le froid. Et bah, tout entassé. On a quelques emplois qui sont proposés avec la fac. Par exemple, il y a des emplois qui sont faits pour la restauration universitaire. Avec le confinement, il n'y a plus personne à la fac. Du coup, ils ont besoin de plus personne. Donc voilà. Moi, j'ai 21 ans. Je suis à Chambéry et ma famille se trouve dans l'Ain. Du coup, c'est pas forcément pratique pour rentrer. Surtout qu'avec le confinement, bah, j'ai fait le choix de rester ici car dans l'Ain, la connexion Internet est pas la plus performante du monde. Bah, même si ici la connexion n'est pas super, j'ai un minimum de connexion Internet. C'est ce qui est le plus important quand on fait les cours à distance. Essayer de suivre le prof en ligne.
J'ai 22 ans, là, il n'y a pas longtemps. Là, ça fait un an que je suis à Chambéry. Là, je suis dans ma deuxième année de droit. C'est la deuxième fois que je viens ici, là, dans ce local. C'est la deuxième fois. Bah, alors, en ce moment, avec le confinement, je fais un petit travail les matins. Je me lève tous les jours à 5 heures. Je fais un peu de ménage, agent d'entretien. Je n'ai pas le choix parce que le confinement, il n'y a pas de travail. Il n'y a rien. Toutes les entreprises où j'avais postulé, ils m'ont dit, ouais, après le confinement, on vous prend. Mais pour l'instant... Je suis étudiante étrangère, j'ai pas la bourse, ça veut dire que j'ai pas vraiment de source de revenus à part ceux que mes parents m'envoient. Avec le confinement, il n'y a pas de travail. Donc le premier travail qu'on me donne, je le prends. C'est peut-être pas un travail que j'aurais fait en temps normal, mais en fait, j'ai pas le choix. Je préfère ça que de rester chez moi. Je vis dans un 18 mètres carrés, je vis toute seule. Je m'ennuie. Si je reste toute la journée chez moi, je deviens folle. Je suis obligée de sortir, puis avoir un peu d'argent aussi de poche et tout, parce que c'est vraiment dur. À un moment, faut partir, à un moment, faut être indépendant, à un moment, faut se débrouiller tout seul. Et c'est ce que je suis en train de vivre là, entre les factures d'électricité qui arrivent. Je vis dans un 18 mètres carrés. J'ai reçu une facture d'électricité d'EDF sur une période de un an, même pas. Ils m'ont fait payer en tout 700 euros. Et là, en ce moment, j'ai pris un abonnement, je devais payer 20 euros tous les mois, c'était une mauvaise idée. Là, je me retrouve avec une dette de 540 euros que je ne peux pas payer parce que je suis étudiante. Et j'ai commencé à travailler il n'y a pas longtemps et encore. Et c'est juste, voilà, c'est compliqué. Ouais, en fait, ça m'affecte pas particulièrement parce que je n'ai pas à me plaindre. Je sais qu'il y en a qui sont pires, dans des pires situations que moi. Il y a des familles, l'année dernière, le premier confinement, j'ai vu, il y avait des familles. Une famille qui vivait à 5, je crois, dans un 17 mètres carrés. Donc, je ne peux pas me plaindre. Franchement, je ne peux pas me plaindre. J'ai pas à me plaindre, mais voilà.
Ça a été ?
Oui, c'était très bien.
C'était la première fois que tu venais ?
Non, la deuxième fois. Et c'est compliqué, le confinement. Parce que du coup, je sors pas beaucoup de base, mais là on me force à rester chez moi et ça fait mal au moral. J'ai besoin de sortir en ce moment parce que la situation et ma situation particulièrement fait que j'ai besoin de prendre de l'air et je peux pas.
Et comment tu gères ça ?
Et j'aille chez moi et je reste souvent sur mon balcon. J'ai déjà des doutes de base concernant ma filière et mes études. Et le confinement n'arrange pas les choses. Ça les aggrave et j'ai beaucoup de doutes en ce moment.
Tu te dis quoi ?
Que peut-être que l'école, c'est pas fait pour moi. Il faudrait que je trouve un travail et que je rentre dans la vie active. C'est plus compliqué à faire qu'à dire. Le confinement a brisé beaucoup de mes attentes. Comme rentrer en vacances chez moi, sur l'île de la Réunion, mais c'est pas possible. Comme voyager et aller en Erasmus, mais c'est pas possible. Faire des voyages en France et à côté, et c'est plus possible. Ne pas rester cloîtré ici.
Et j'ai tassé bleu blanc et j'ai balancé.
Je suis Roxane Mbongo, j'ai 22 ans. En ce moment, je suis étudiante et en même temps maman. Je suis en première licence de droit, donc j'aurais fait mon année parce que mon année précédente, la petite, elle était plus petite, donc c'était difficile un peu du côté garde. Donc aujourd'hui, tout est compliqué avec le Covid, pas de travail, on est là à la maison. En ce moment, moi, je suis sans ressources, donc c'est très compliqué. S'il n'y avait pas les aides pour l'alimentation, je ne sais pas comment j'aurais survécu. Et toutes les aides du CROUS qui m'aident à payer mon logement, je dis grâce à Dieu, quoi. On était dans des bonnes situations dans mon pays, oui.
Est-ce que tu peux me redire d'où tu es ?
Du Congo, Kinshasa. Ma mère a tout fait pour me mettre dans des bonnes écoles, pour pouvoir travailler, apprendre l'anglais, tout ça. Et quand j'ai eu, chez nous, c'est le diplôme d'État, donc c'est équivalent à un bac. Quand j'ai eu beaucoup de points, donc par rapport à, là-bas, ici, c'est les mentions. Et là-bas, c'est les pourcentages. Donc, j'ai fait 73%. À partir de là, je pouvais m'inscrire sur Campus France pour pouvoir venir poursuivre les études ici en France. Ensuite, j'ai établi mon projet professionnel. J'ai passé un entretien où ils m'ont posé des questions. Pourquoi je venais en France? Qu'est-ce que je connaissais de la France? Et mon dossier a été envoyé à l'Université de Lyon, la Jacob El-Combet et à l'Université de Grenoble. Et les trois avaient accepté, mais j'avais le choix. J'avais le choix. Donc, du coup, j'ai choisi ici à Chambéry. Et ma mère me dit, pourquoi tu choisis à Chambéry? J'ai dit, non, j'ai regardé sur Internet. C'était une ville où c'est mieux pour étudier, plus c'est plus calme. Il y a beaucoup plus des étudiants et tout. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de musées, toutes ces histoires-là. La montagne, donc ça m'a attiré plus. Ma mère, elle a dit, ok, d'accord. Après, on a commencé à faire les recherches pour l'appartement. C'est là qu'on a eu l'appartement... en colocation sur internet et on m'a accordé mon visa et je suis arrivée à la fac, j'ai fait mon inscription administrative, ensuite je suis repartie chez moi et j'ai rempli un dossier que je devais déposer à l'OFI. J'ai rempli un document, je suis allée pour qu'on valide mon visa. On a validé mon visa et là on m'a demandé de faire des examens pour la tuberculose, enfin tous les examens généraux quoi. Et je reviens demain pour chercher mes résultats. Ils me disent, madame, vous savez que vous êtes enceinte? J'ai dit, pardon? Oui, vous êtes enceinte. J'ai dit, non. Ils me disent, si, là, vous devez faire une radio parce que le taux, il m'a dit un mot que j'ai oublié, dans le sang, ça vous montre que c'est plus de 5 mois. déjà, je commençais à réfléchir. Je me dis, non, c'est pas possible. J'ai failli tomber dans les pommes. Il m'a dit, calmez-vous. J'ai dit, non, je viens d'arriver. Je suis étudiante, je connais rien du tout. Mais comment je veux faire et tout. Il m'a calmée. Il m'a dit, ça sert à rien de pleurer. C'est déjà arrivé. Ensuite, on m'a fait l'échographie. C'était pas de 5 mois, mais 6. Tous mes rêves se sont écroulés, donc je savais plus quoi faire. Je l'avais pas d'abord dit au départ à mes parents parce que j'avais pas le courage. Je me disais, c'est fini pour moi. Là, j'existe plus à leurs yeux. Et on m'a donné plein de rendez-vous parce qu'on devait me faire plein d'examens rapidement pour voir s'il y avait un problème quelque part, vu que c'était un déni de grossesse. Donc, jusqu'à aujourd'hui, personne de ma famille ne m'adresse la parole. Et j'ai pleuré au moins pendant une semaine. Et ensuite, juste avant que j'accouche, le proprio commençait déjà à me mettre la pression de sortir. Vu que c'était que pour les étudiants, et pas avec un bébé. Donc sur ce point-là, je comprenais, mais il a été très désagréable avec moi. Il a jeté mes affaires par la fenêtre. Je disais, mais laissez-moi le temps au moins de trouver un autre logement. Il est venu, il a vu que j'avais accouché, il s'est énervé. Il est arrivé, il a tout jeté dehors, mon frigo, mes vêtements, il jetait par la fenêtre. Tout. Donc la première année où je suis arrivée, je n'avais pas étudié parce que j'allais pas parce que je venais d'accoucher. Et juste après, j'ai fait 6 mois, j'étais sans logement. Donc je ne pouvais pas aussi aller en cours dans ces conditions-là. Après, il y a eu le logement qui s'est débloqué dans ce logement-là.
C'est un logement social, c'est un logement étudiant?
Oui, non, social. C'est un HLM. Donc, il y a une chambre, il y a une cuisine, il y a une salle de bain et il y a une toilette et le salon. Ouais, mon logement est à 2 minutes de l'université. Donc, ça me pose pas problème d'y aller, mais nous, en droit, vu qu'on est tellement nombreux, on n'a pas de cours en présentiel. Il n'y a que les TD qui sont en présentiel, mais vu que j'ai un enfant, donc j'ai une dispense. Donc, je viens que pour les examens, soit du premier semestre ou du deuxième. Ça s'est très bien passé au départ, et après, j'ai plus eu de connexion. Donc, les derniers examens du 15 au 16, je ne l'ai pas fait. Donc, j'ai rempli un formulaire pour pouvoir bien signaler qu'il se passe ça, du côté finance. Et ils vont me répondre, ils vont voir si je le ferai dans les mois à venir. Ça se passe pas mal. J'essaie de faire la part de choses, sinon... J'essaie de plus de me concentrer, de pas entendre ma fille. Deux fois, elle comprend. Je lui dis, va là-bas, maman, elle travaille. Elle va jouer là au couloir. En même temps, je la surveille parce que je peux pas rester que fixée sur mon ordinateur. Elle risque de faire une bêtise. Donc, je la laisse jouer au couloir. Comme ça, j'ai l'œil sur elle. Et en même temps, j'étudie. Il y a des moments où c'est difficile. Je dois répéter 3 ou 4 fois, ou peut-être vers 1 heure ou 2 heures du matin. Là, je sais qu'elle dort profondément. Elle se réveillera pas. Je me lève. J'ai fait mes cours jusqu'à 5 heures. Après, je me rendors jusqu'à 9 heures et je me réveille pour m'occuper de la maison, faire le petit déjeuner. Mais par rapport aussi aux études, donc... C'est le même problème, en fait, qui persiste jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, je peux pouvoir la faire garder, mais j'ai pas de finances. Et le premier confinement, la première vague, je travaillais à Monoprix de Aix-les-Bains. Ensuite, ça s'est arrêté pour la première fois pour le Covid. Donc, eux, ils devaient vraiment fermer parce qu'en fait, c'était une Monoprix station dans la gare de Aix. Et donc, eux, ils devaient tout arrêter. À un moment donné, je recevais ma paye. Après, du coup, ils m'ont dit que non, vu qu'on n'est que deux, ils doivent garder une seule personne. Et la personne qui était là a déjà fait 5 ans. C'est pas que je travaille pas bien. Donc, j'ai dû arrêter. Ils ont dit qu'ils étaient désolés, tout ça. Les 3 premiers mois, j'ai eu mon salaire, j'ai mis de côté. Après, stop. Et c'est là que j'ai trouvé un autre travail à Otakos. J'ai commencé au mois de septembre et la deuxième vague a commencé à arriver. Et c'est là ils ont viré au moins 15 personnes. Parce qu'ils venaient d'ouvrir, ils ne pouvaient pas garder au moins 30 employés s'ils ouvraient à temps partiel. On était tous des étudiants. Ouf, catastrophe encore. Donc voilà. C'est pire qu'avant. Au moins, j'avais des sous à côté, mais là, je n'ai vraiment plus rien. Plus rien. Je ne peux même pas travailler. Donc, c'est comme ça. Et le deuxième mois, je n'ai même pas pu faire les courses parce que je devais payer la garde, payer la maison. Plus rien. Je n'ai même pas pu faire les courses jusqu'à aujourd'hui. Là, je ne dépends que des assos. Donc, J'attends quand à chaque distribution, toutes les semaines, il y en avait là par rapport au couvre-feu. Maintenant, c'est une fois par semaine. Avant, c'était deux fois. C'était mardi et jeudi. Et là, c'est que mardi maintenant.
Et tu payes pour ça ?
1 euro si je les ai. Sinon, je vais comme ça, ils écrivent. Le jour où j'aurai, je les donne. J'espère en avoir là parce que j'aime pas avoir des dettes dans ma tête. Même si c'est 50 centimes, ça me dérange. Je ne dors pas bien. Je suis comme ça. J'aime pas devoir à quelqu'un. Ça me dérange. C'est le fait de voir ma fille aussi, je me dis je peux pas baisser le bras par rapport à elle. Et j'ai vraiment trop peur qu'on me dise non, on peut plus vous donner les papiers, vous devez rentrer chez vous. Alors que je suis passée par des histoires que beaucoup de monde n'aurait pas eu les épaules pour. Et c'est juste ce qui me fait mal, c'est que j'ai vraiment envie de continuer mes études. Ça a toujours été mon but, mais je pouvais pas laisser tomber ma fille parce que même si c'était pas attendu, je l'aime quand même et j'ai envie d'être un exemple pour elle malgré tout ce qui nous arrive. J'ai jamais eu envie de baisser les bras par rapport à mes études, mais ça, ils le comprennent pas, donc. J'espère que ça va aller. Je garde la foi. Je suis pas trop quelqu'un qui aime partager ma peine avec mes amis. J'ai l'impression de me mettre, je sais pas, plein de. Un poids, quoi. Donc, j'aime pas mettre les gens le poids de mes problèmes, non. Et mes assistants sociales, les personnes de la mission locale qui m'ont toujours suivi depuis que je suis ici, donc qui connaissent bien mon parcours, quoi. Ils n'arrêtent pas de m'appeler pour me motiver, me donner des conseils. C'est eux ma famille, quoi. Oui. Donc voilà. Sans eux, je ne saurais même pas quoi faire, je ne saurais pas quelle démarche faire, je ne saurais pas par où passer, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est juste que j'ai peur qu'on me rapatrie dans mon pays, quoi. Je peux pouvoir retourner dans mon pays, c'est pas que je veux rester ici en France pour toute ma vie. J'acquiers des connaissances, j'ai fini mes études, je sais que je vais rentrer, j'aurai un travail, je vais m'occuper de ma fille, il n'y aura personne qui va venir après. Mais rentrer chez mes parents, mais je ne vais plus jamais la revoir. C'est fini, ils vont la ramener au village, je ne vais plus jamais la revoir, plus jamais. C'est des personnes qui sont trop dans la coutume, qui ne pardonnent pas ces choses-là. Tu peux tout faire des bêtises à l'école, mais... Pour eux, tout ce qui est acte sexuel, c'est dans les mariages par ordre. Par ordre. C'est une abomination pour eux. C'est même pas très grave, c'est une abomination. Donc, même si je retourne dans mon pays, moi, j'aurais fini mes études, quoi. Je serais pas venue ici pour rien. J'aurais réalisé mes ambitions. C'est tout ce que j'espère.
C'était Pandémie des étudiants sacrifiés, un reportage de Valérie Borst réalisé par Cécile Lafont et mixé par Philippe Mercher. Merci aux étudiants du campus de Jacob Belcombette, à Sabrina, à Roxane et à Nadia de l'association Études Débrouilles. Merci également à la plateforme de soutien de l'USMB, c'est-à-dire l'Université Savoie-Mont-Blanc. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Mélissa Foust et notre stagiaire, c'est François Bréus.
Swing sets there beside the lake.